explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Le temps d'un bivouac!
Au cours des 15 dernières années, ses voyages l'ont mené de la Sibérie à l'Asie centrale, en passant par l'Afrique. Elle a foulé des déserts et des steppes s'étendant à l'infini, arpenté des montagnes aux sentiers grillés par le soleil. Tous ses efforts pour aller recueillir un trésor à la valeur inestimable. Il ne s'agit pas de pierres précieuses, d'or ou d'épices rares. Le trésor après lequel court Evelyne Heyer se niche au cœur de nos cellules. Evelyne Heyer est anthropologue généticienne. Lors de ses expéditions, elle prélève un peu d'ADN des habitants des régions qu'elle traverse. Pour elle, nos gènes sont un livre d'histoire, une machine à remonter le temps. En les étudiant, on peut retracer la longue épopée qui a conduit une poignée de sapiens errant dans la savane à conquérir la planète entière. Evelyne Heyer raconte les dernières découvertes scientifiques dans ce domaine dans un livre passionnant intitulé « La vie secrète des gènes » aux éditions Flammarion. Cet après-midi, elle nous emmène dans une grande odyssée à travers le monde sur les traces de nos ancêtres. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre naturaliste de terrain, Marc Giraud, qui aujourd'hui nous emmènera écouter les poissons. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission a été préparée par Laura Dumez et Baptiste Léger, avec à la réalisation David Leprince et à la technique aujourd'hui, Florian Dittre. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Manique.
Œil de glace et son frère n'avaient jamais vu ça. Ils étaient physiquement différents. Leurs vêtements étaient différents. Leur peau était de différentes couleurs, comme les serpents. Ils avaient des armes étranges et ils savaient aussi prendre le poisson. Et même mieux que nous. Il y avait des femmes. Beaucoup de femmes. Certaines avec des cheveux de la couleur du soleil. Jamais on n'avait entendu parler de ces êtres étranges. D'où venaient-ils? Que faisaient-ils ici?
Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la voix de Charles Berling racontant dans le documentaire L'Odyssée de l'espèce la rencontre entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens. Alors on n'y était pas, hein. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais ce qui est certain, c'est que cette rencontre entre des humains appartenant à deux espèces différentes a bien eu lieu.
Ah, tout à fait, c'est justement ce qu'ont amené les merveilleux travaux de Svante Paabo, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs pour ça, de montrer qu'il y avait eu des croisements féconds entre sapiens et Néandertal. Mmh. Et effectivement, c'est génial d'imaginer comment ça s'est passé, mais on ne le saura jamais, mais c'est quand même sympa. Ouais.
Enfin, on sait quand même qu'ils ont fait l'amour, puisqu'ils ont eu des descendants et que leur ADN s'est croisé.
Oui, ils ont fait l'amour, ça c'est clair. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'ils sont tombés amoureux ou pas? Ça, on ne sait pas. Hein.
Ouais. Alors, le premier des deux, entre Néandertal et sapiens, ça arrive en Europe, c'est Néandertal. Il est là depuis bien longtemps quand sapiens arrive.
C'est ça. Néandertal, il est issu d'une sortie d'Afrique plus ancienne et donc il est vraiment bien installé en Eurasie quand sapiens arrive. Sapiens arrive, selon l'endroit où on se situe au Moyen-Orient ou en Europe, entre 60 000 et 40 000 ans. Mmh. Et Néandertal est là depuis quelques centaines de milliers d'années.
Et est-ce qu'on sait où ont eu lieu les premières amours charnelles, disons-le comme ça, entre Néandertal et sapiens?
Les premières ont lieu au Moyen-Orient parce que en fait, comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que dans notre ADN de sapiens, en dehors d'Afrique, on a tous un petit peu de Néandertal. On a tous à peu près 2% de Néandertal, même les gens qui vivent en Australie, en Chine, en Europe. Donc, ça s'est passé vraiment au moment de la sortie importante de sapiens d'Afrique.
Et il y a eu des recherches qui ont été menées, je crois que c'est en 2015, dans la cavité, une grotte de Bakokiro. Nous sommes en Bulgarie. Et là, on s'est rendu compte compte, en faisant les analyses génétiques, que non seulement ils s'étaient rencontrés, croisés, mais que c'était pas, disons-le comme ça, un coup d'un soir. C'est-à-dire que dans les familles de sapiens, tout le monde a des Néandertaliens, quoi.
Oui, alors il y a le premier croisement, on va dire, il y a 60 000 ans, et à Bachau-Quirault, ce qu'il y a de génial, c'est que l'équipe de Jean-Jacques Hublin qui a travaillé sur ce site, ils ont pu analyser l'ADN et montrer qu'en plus, là, il y avait eu à nouveau des mélanges, c'est-à-dire que l'humain qu'ils ont retrouvé avait un arrière-arrière-grand-père ou grand-mère qui était un Néandertal. Ouais. Donc c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois.
Mais alors, on a longtemps vu Néandertal, bon, ça change un peu maintenant, mais on l'a longtemps vu comme une brute épaisse, bien moins évoluée que Sapiens. Apparemment, ils ont trouvé de quoi se dire, ou en tout cas, ils ont trouvé de quoi s'aimer pour que ça arrive régulièrement sur plusieurs générations.
Oui, et puis depuis qu'on sait qu'on a du Néandertal en nous, il est bien réhabilité aussi.
Oui, c'est ça. En fait, il faut que ce soit suffisamment proche de nous pour qu'on estime.
C'est vrai que les préhistoriens ont montré qu'il enterrait ses morts, qu'il avait des bijoux, qu'il travaillait un peu les symboles. Et régulièrement, il y a des trouvailles autour de Néandertal qui sont bluffantes.
Et alors, autre information que révèlent les analyses génétiques, c'est que ces premiers sapiens qui ont rencontré Néandertal il y a 45 000 ans, hein, notamment sur le sol de ce qui deviendra la Bulgarie, ils ne sont pas restés en Europe finalement. Ce ne sont pas nos ancêtres à nous, Européens.
Tout à fait. En fait, on n'est pas descendants de ces premiers qui sont arrivés en Europe. Il y a eu certainement plusieurs migrations, même ça s'est fait même avec des flux réguliers, ça on ne sait pas bien. Mais en tous les cas, les premiers qui sont arrivés là, qu'on retrouve à Bachau-Quirault, on ne retrouve pas son ADN, ouais, dans les populations européennes actuelles.
Ça veut dire qu'après, ils ne sont pas restés là, en fait, ils n'ont fait que passer.
On pense qu'ils sont allés vers le nord parce qu'on retrouve un peu de leur ADN dans un ADN aussi ancien, plutôt autour de la Sibérie. Mais en fait, ce qui ressort, c'est qu'on a toujours eu la bougeotte.
Hein. C'est ça. Et on voit bien, du coup, l'enquête policière que ça représente, ces études génétiques, c'est d'essayer de proche en proche de voir par où ils sont passés et dans quel sens se sont effectuées les migrations.
C'est ça. Mais on n'a pas encore une finesse assez bonne, mais je pense que ça va venir petit à petit pour comprendre aussi dans le détail pourquoi les gens ont bougé. Est-ce que c'est d'un seul coup quelqu'un qui, avec son sac à dos, a fait 500 kilomètres, ou est-ce que c'est petit à petit, kilomètre par kilomètre? On n'a pas encore vraiment tous les outils pour bien retracer ça. Mais quand même, il faut rappeler que les migrations humaines, les premières, c'est sur des grandes échelles de temps.
Évidemment. Hein.
C'est en moyenne quelques kilomètres par génération.
Oui, c'est ça. Ça paraît des grandes migrations, mais c'est avec la profondeur du temps, bien sûr, pour le temps de les faire. En prenant cette route vers l'Est, vers l'Asie, là, il a eu une chance, Sapiens, de rencontrer celui qu'on appelle le Néandertal de l'Asie, qui est Denisova. Qui est Denisova exactement ?
Oui, Denisova, c'est le cousin germain de l'homme de Néandertal. C'est effectivement, on va dire, le Néandertal de l'Est. Donc, il s'appelle l'homme de Denisova. Et donc, quand Sapiens va plus vers l'Est, il va rencontrer Denisova, ce qui fait que les populations plus à l'Est, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, etc., se sont mélangées. Donc, non seulement au début avec Néandertal, mais après aussi avec l'homme de Denisova.
Parce qu'ils ont de nouveau fait l'amour avec Denisova.
Ah oui, tout le temps.
À chaque fois qu'on se rencontre, on ne sait pas si on s'est fait la guerre, mais on est sûr qu'on s'est fait l'amour.
Tout à fait. Et même entre Néandertal et Denisova, ça s'est bien croisé.
Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une époque sur Terre, autour d'un même feu, on pouvait avoir un Néandertalien, un Denisova et un Sapiens? Est-ce que l'humanité était plurielle à ce point?
En tous les cas, l'humanité était plurielle. Est-ce qu'ils étaient tous autour du même feu au même moment? C'est plus compliqué à dire. Mais par exemple, la grotte de Denisova, avec les études d'ADN environnemental, il y a des scientifiques qui ont pu retracer qui était là à quel moment. Donc on a un moment Néandertal, puis Denisova arrive, puis Denisova repart Néandertal, Denisova revient, Sapiens arrive, etc.
Ouais. Et ça ne se limite pas à ces trois humanités-là, hein. Néandertal, Denisova, Sapiens, au même moment, là on est entre moins 60 000 et moins 30 000 ans, sur Terre, il y a encore d'autres humanités.
Oui, il y a l'homme de Flores, qu'on dit aussi le hobbit de la préhistoire, parce qu'il mesurait en moyenne 1m10. Et Florent Détroit, un collègue au Musée de l'Homme, a trouvé aussi un homme de Luzon dans les Philippines. Par contre, on n'a pas de traces dans l'ADN de mélange avec ces deux autres espèces.
C'est-à-dire que là, jusqu'à preuve du contraire, ils ne se sont pas croisés, ou s'ils se sont croisés, ils ne se sont pas aimés.
Voilà, ou alors on n'a pas de descendants génétiques jusqu'à nous.
Ouais. C'est quand même assez phénoménal, hein, d'imaginer ces cinq humanités qui se côtoient à la surface du globe parfois en se croisant, parfois à distance, mais en tout cas qui cohabitent sur la même planète. Comment a disparu Néandertal? Comment tous ces autres espèces humaines ont-elles disparu?
Alors, vous savez, le devenir d'une espèce, c'est soit de se transformer, soit de disparaître. Hein. Donc, Néandertal, oui, il est plutôt allé vers la case disparition. Et avec l'ADN de Néandertal, on peut voir qu'il est en décroissance démographique. C'était des petits groupes, il a accumulé des mutations dans son ADN qui n'étaient pas top. Mmh. Et je pense que l'arrivée de Sapiens a un peu déstabilisé cet équilibre déjà extrêmement fragile. Il était déjà vers la voie de l'extinction.
C'est ça. Il était déjà en déclin, les populations étaient déjà en train de décliner.
C'est ce qu'on retrace dans les données d'ADN,
avant
que Sapiens arrive. Bon, ça n'a pas dû aider non plus.
Oui. Hein. Oui, mais c'est peut-être pas entièrement de notre faute. C'est quand même ce que
c'est pas complètement de notre faute. Et puis comme on a récupéré un peu de son ADN, voilà, il reste des traces, etc.
Oui,
quoi.
Il vit encore un peu à travers nous. Ça veut dire qu'on a effectivement un petit peu quel pourcentage de gènes nous viennent de Néandertal.
Alors on a chacun à peu près sur la planète, en dehors de l'Afrique, 2% de notre ADN qui vient de Néandertal, et chacun a des 2% un peu différents. Donc si on les met bout à bout, on arrive grosso modo à reconstituer 50% de l'ADN de Néandertal.
Ah oui, donc il y a quand même 50% de ces gènes qui ont traversé les âges, embarqués à bord du génome des sapiens. C'est une chance ou c'est une tare d'avoir de l'ADN et des gènes néandertaliens dans notre génome aujourd'hui?
Vous savez, la génétique, c'est marrant parce que c'est toujours des deux côtés.
Ouais.
Vous avez des variants génétiques reçus de Néandertal qui donnaient plus de risques de faire un Covid grave et d'autres au contraire qui protégeaient. Certains qui permettraient de protéger contre le diabète, d'autres qui augmentent le risque d'avoir du diabète. Donc voilà, c'est pas ni bien ni mal, c'est un peu des deux.
C'est quand même étonnant ce que vous dites là, cet exemple vraiment récent avec le Covid. Les porteurs d'un gène de Néandertal ont fait des Covid plus graves que ceux qui ne l'avaient pas. C'est étonnant de se dire à une telle distance, ce legs qu'ils nous ont fait nous a démunis face à cette maladie.
Oui, en fait, c'est que peut-être que ces variants génétiques, dans le passé, ont protégé contre d'autres maladies. Et c'est pour ça que Néandertal les avait. Et c'est pour ça que c'est des petits bouts de gènes qui ont perduré chez les sapiens. Et finalement, par un effet de contrebalancier, ce qui était positif avant devient négatif dans un autre contexte. Ça, on le retrouve souvent dans l'évolution.
Alors, Néandertal et sapiens sont-ils les premiers humains à avoir foulé le sol européen? Pour avoir un début de réponse, allons faire un tour en Espagne, du côté du site archéologique d'Atapuerca, pas très loin de Burgos.
La dent a été découverte au niveau 9, qui est, comme nous le voyons, là où se situe le papier blanc. Et quelques jours plus tard, est apparue la mandibule du même individu. Ces vestiges sont les restes humains les plus anciens jusqu'à présent, aussi bien dans la vallée d'Atapuerca qu'en Europe occidentale, et prouvent que les premiers hommes avaient déjà atteint la péninsule ibérique il y a plus d'un million d'années. C'est pourquoi la première question est de savoir s'ils ressemblaient plus aux êtres humains actuels ou plus, par exemple, aux australopithèques. Il est évident qu'ils sont plus proches de nous. Si nous pouvions amener un homo antécesseur aujourd'hui en l'habillant d'un costume et d'une cravate, nous ne noterions probablement pas de grande différence à une bonne distance. Nous pouvons clairement qualifier cette espèce d'humaine.
La voix des scientifiques José María Bermúdez de Castro et Rosa Huguette. C'était des humains, ces individus qui ont vécu en Espagne il y a plus d'un million d'années, donc qu'on appelait les homo antécesseurs, Evelyne Heyer.
Oui, il faut clairement partir de la lignée humaine. Mais la lignée humaine, en fait, elle est pas une lignée, c'est un buisson humain.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, il y a eu plein de trucs. Bon, pardon, de trucs. On va dire d'humains.
Oui, c'est ça.
Enfin, de sortes d'humains à différents moments. Certains qui ont survécu, certains qui se sont croisés entre eux, d'autres qui ont disparu. C'est foisonnant, en fait.
Mais est-ce que grâce à la génétique, du coup, on peut identifier une période, un laps de temps où apparaissent les premiers humains sur Terre?
En fait, les études génétiques montrent que c'est très graduel.
Ouais.
En fait, on peut retracer, même en utilisant l'ADN des gens actuels, on peut retracer notre passé. Et en analysant des populations africaines, ce qui ressort, c'est que en fait, il n'y a pas un berceau de l'humanité.
Oui.
Mais il y a plein d'endroits où, finalement, il y avait des avancées génétiques qui, après, se sont mélangées et ont fait sapiens.
Alors aujourd'hui, on l'a compris, nous sommes les seuls survivants d'une humanité qui par le passé a été plurielle et foisonnante. Sapiens s'est retrouvé seul à la surface du globe. Il est allé plus loin que tous les autres représentants du genre homo ne l'avaient fait avant lui. Evelyne Heyer, grâce à l'analyse des génomes des humains actuels, il est possible de retracer les grandes migrations d'homo sapiens à travers le monde et à travers les âges. Vous allez nous raconter ces études génétiques que vous faites en allant à la rencontre des populations les plus diverses. Et puisque ces études vous ont permis de découvrir le temps d'un bivouac, remonte le fil de la grande odyssée de Sapiens cet après-midi sur France Inter avec l'anthropologue et généticienne Evelyne Heyer. It's a man's world. C'était une reprise de Sekouba Bambino sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Nos parents empruntaient déjà ces routes. Et bien avant eux, nos ancêtres suivaient ces pistes depuis des millénaires. Si je me sédentarise, ma vie n'aura plus aucun sens. Nous ne sommes pas faits pour vivre en ville. Mon histoire est liée à ce mode de vie.
« Nous voilà donc arrivés dans les steppes d'Asie centrale, au pied des montagnes de l'Altaï, là où se rencontrent le Kazakhstan, la Chine et la Mongolie. Une région que notre invitée Evelyne Heyer, anthropologue et généticienne, connaît bien. Vous vous y êtes rendue à plusieurs reprises pour faire des prélèvements d'ADN sur les populations locales. D'abord, plantez-nous le décor. Ça ressemble à quoi ces endroits d'Asie centrale que vous avez parcourus à de nombreuses reprises, Evelyne ?
Alors dans cette zone-là, c'est vraiment les steppes à perte de vue, les montagnes, parce qu'on n'est pas loin de l'Altaï, c'est un peu comme les Alpes, et surtout des cieux absolument magnifiques, mais d'une beauté. C'est vraiment des endroits, on a vraiment ces paysages grandioses, et quand on est du côté plutôt russe, donc par exemple en République Touva, c'est très très sauvage, et dès qu'on arrive en Mongolie, il y a des yourtes, beaucoup plus que de l'autre côté de la frontière d'ailleurs, assez marrant. Donc vous avez ces grandes étendues, puis au loin vous voyez des taches blanches qui sont les yourtes. Et moi, ce qui m'a fasciné, voilà, c'est les troupeaux de chameaux en altitude, les yaks. Voilà.
C'est vraiment l'aventure. Hein, on le voit au grand sourire que vous avez quand vous me racontez ça. Mais vous êtes évidemment allé un peu partout en Asie. Vous êtes allé en Sibérie. Hein, vous êtes remonté vers le nord. Et parfois vous avez fait quelques frayeurs. Hein, c'est un peu Indiana Jones quand vous allez sur le terrain, Evelyne Heyer.
Oui, c'est vrai. On a plusieurs fois vraiment failli mourir, mais à chaque
dit-elle
fois, on
avec
a survécu
un grand sourire.
Et on en est bien content. Et puis aussi, oui, par exemple, une fois, on a notre camion, notre OAS qui s'est planté dans la rivière qu'il fallait traverser justement pour rejoindre la Mongolie. On s'est retrouvé coincé au milieu d'un torrent de rivière et on pouvait pas en sortir. On était emporté par le courant. Et un des personnes de la mission, qui d'ailleurs est mon compagnon, est arrivé petit à petit à atteindre la rive, à couper un arbre, nous a sorti un par un, et là, ambiance Koh Lanta, on fait du feu pour essayer de se sécher. Et alors, venu de nulle part, il y a d'un seul coup tout un groupe de nomades qui arrivent avec un thé chaud. Ouais. C'était génial.
Ils tombaient à pic, ces nomades. Alors pourquoi vous avez, au-delà du goût de l'aventure, pourquoi vous avez choisi d'aller vers ces populations-là pour ces études génétiques, Evelyne ?
Eh bien, en fait, c'est pour comprendre comment, en partant d'Afrique, on a colonisé l'ensemble de la planète. Donc on connaît un peu plus le chemin pour aller en Australie, mais moi je voulais voir aussi comment on était rentré un peu dans le milieu des terres, donc dans l'Asie centrale et le sud de la Sibérie, et aussi parce qu'il y a un truc qui me fascine, le sud de la Sibérie, c'est une des zones du monde qui a toujours été peuplée. C'est-à-dire, si vous dites c'est un des coins de la planète où les humains ont toujours habité parce que c'était agréable, et bien il y a le sud de la Sibérie.
Ouais. D'accord. Et vous comprenez aujourd'hui que ça a été l'endroit le plus prisé à toutes les époques ?
Quand même, c'est un peu rude l'hiver, hein. Mais c'est le reste du temps, oui, c'est vraiment très agréable, quoi. C'est des endroits où il y a de l'eau, où on peut, après, quand l'agriculture est venue, cultiver, mais surtout où on peut faire de l'élevage. Et du coup, je comprends mieux pourquoi, effectivement, les humains se sentaient bien là-bas.
Mais comment vous êtes perçu, justement, par les populations locales quand vous, équipe de scientifiques européens, vous arrivez avec vos projets d'études génétiques, prélèvements de salive, prise de sang pour étudier l'ADN de ces gens. Ils vous voient comment ? Comment êtes-vous perçu ? Est-ce qu'ils acceptent tout de suite de participer à ces études ?
Il faut dérouler l'échelle administrative. Hein. Oui. Donc on commence avec des collègues scientifiques d'université, puis après on va de la région à la sous-région, au district, au sous-district, et on arrive au village.
Ouais.
Et dans le village, je me souviens toujours de ce maire, pour avoir son autorisation de travailler sur sa commune, je lui ai dit, regardez, avec l'ADN, on a pu montrer que ce sont vos ancêtres qui ont colonisé l'Amérique. Et là, c'était dans la partie russe de nos missions. Donc, il était très fier en tant que russe d'avoir colonisé l'Amérique.
Voilà. Vous savez alors, trouver les mots pour donner envie de participer.
Là, il était super content. Puis je lui dis, mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vos ancêtres africains sont arrivés en Asie centrale. Et là, il m'a dit, mes ancêtres africains. Ah. Mais regardez, on n'a pas la même couleur de peau, quoi. Donc, il a fallu lui expliquer que la couleur de peau, ça change petit à petit. Mmh. Et que oui, on vient bien tous d'Afrique. Ouais. Mais on est toujours très bien accueillis. On fait des rencontres humaines extraordinaires.
Alors, ça m'amène effectivement en Amérique, parce que on le sait, hein, l'Amérique, c'est le dernier continent à avoir été investi, et aucun autre humain que Sapiens, c'est-à-dire ni Néandertal, enfin, ni toutes les autres représentants de l'humanité qu'on a évoqués en début d'émission, sont allés un jour en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
À l'heure actuelle des connaissances, non. Il y a vraiment que Sapiens qui a foulé l'Amérique. Et à partir des études d'ADN, on sait que le gros de l'arrivée date d'environ 15 000 ans. C'est-à-dire que les Amérindiens actuels descendent de ces arrivées il y a 15 000 ans. Il y a peut-être eu d'autres moments où Sapiens est venu, mais ça n'a pas laissé de descendants génétiques.
Ouais. Il arrive comment, Sapiens ? Par où il passe
pour... Par le détroit de Béring.
Par le détroit de Béring.
À pied. Pendant qu'il fait froid.
C'est ça, c'était la période où finalement on pouvait passer à pied.
On pouvait traverser à pied. Ouais. Bon, il a peut-être caboté, hein. On ne sait pas s'il a marché à pied sur les glaces ou s'il a caboté.
Oui, des petites embarcations de proche en proche pour arriver jusqu'à destination. Mais c'est en une seule fois, c'est-à-dire que tous les sapiens qui ont ensuite colonisé progressivement l'Amérique du Nord puis l'Amérique du Sud descendent tous de ces premiers sapiens qui passent à l'ère glaciaire par le détroit de Béring.
Oui, c'est une des études qu'on a faites là qui m'a vraiment qui m'a surprise quoi, c'est un gros point d'interrogation. Les populations du sud de la Patagonie, on a des photos du 19e siècle qui montrent qu'ils avaient un aspect vraiment différent. C'est des gens, vous rendez compte, qui pouvaient nager dans l'eau froide et qui faisaient de l'apnée dans de l'eau à 4 degrés. Etc. Donc une adaptation au froid, un aspect morphologique différent, et on a pu extraire leur ADN de collections de cheveux et montrer qu'eux aussi, ils descendaient de la même arrivée il y a environ 15 000 ans.
Là, c'est un très bon exemple de ce que la génétique approche, parce que si, c'est, enfin, apporte, parce que si on avait uniquement constaté l'aspect physique, on se serait dit,
c'est des arrivées différentes.
Ouais, ils sont pas cousins, ils sont trop différents pour être proches.
C'est justement, c'était une des questions. Est-ce que c'est plusieurs vagues qui sont venues différentes, etc. Et la génétique est c'est un outil extra pour retracer des similitudes et des parentés génétiques.
Mais il y a quand même quelques énigmes qui restent à ce jour, en tout cas des énigmes. Par exemple, la date de colonisation des Amériques du Nord puis du Sud remonte à moins 15 000 voire 20 000 ans. Or, on a retrouvé au Brésil des vestiges archéologiques plus vieux de plusieurs millénaires. Donc, qui les a construits ? D'où viennent ? Qui était là avant ceux que l'on considère être les pionniers ?
Eh ben, c'est ça. Ça, c'est une super question. Et là, justement, il y a des nouveaux outils qui ont été développés, qui sont l'ADN environnemental. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher l'ADN dans des eaux, qu'on trouvera pas, parce que souvent, dans les zones tropicales, l'ADN se conserve pas bien dans les restes humains, on peut retrouver de l'ADN dans l'environnement. C'est-à-dire dans des grottes, dans des lacs. Et là, peut-être, on saura effectivement si...
Eh oui, grâce à ça, on n'a plus besoin de retrouver forcément une dent, un os. Si on retrouve de l'ADN, on peut déjà avoir une trace de ces pionniers pour le moment invisibles.
Alors on peut savoir s'ils étaient exactement les mêmes que ceux qu'il y a maintenant. Mais maintenant, il vaut mieux avoir de l'ADN directement de l'os si on veut aller un peu plus loin et vraiment retracer dans le détail des migrations.
Autre débat, une fois que les sapiens qui venaient de ce détroit de Béring ont colonisé l'Amérique du Sud, ont-ils pris la mer pour aller vers les îles du Pacifique, comme les archipels polynésiens par exemple, pour démontrer que c'était possible de le faire, de cette traversée avec une embarcation rudimentaire? En 1947, l'ethnologue norvégien Thor Heyerdahl a tenté la traversée du Pérou à la Polynésie avec 5 coéquipiers sur un radeau, le Kon-Tiki, construit en s'inspirant des méthodes ancestrales utilisées au Pérou pour fabriquer les embarcations.
Notre radeau est enfin mis à l'eau. Un bateau sans clous, sans rivets et sans vis. Tout est lié ensemble, à la mode indienne, avec des cordages. Une petite hutte en tige de bambou est amarrée au milieu du radeau. Sous l'œil intrigué des pélicans, nous attachons un morceau de balsa avec des tolets, afin de monter le gouvernail. Tous les nœuds, 300 en tout, sont bientôt terminés. Des découvertes faites dans des tombes au Pérou nous ont appris que les Indiens étaient passés maîtres dans l'art de fabriquer des cordages extrêmement résistants à partir de fibres végétales.
Les 6 hommes ont bien traversé le Pacifique sur 8000 kilomètres, poussés seulement par les courants et par les alizés. Une épopée qui a duré 100 jours et qui a passionné le monde entier. Ils ont réussi leur traversée, mais à l'arrivée, l'ethnologue qui l'avait organisé, Thor Heyerdahl, a reconnu que cette expédition ne tranchait pas définitivement la question.
Le succès de l'expédition du Kon-Tiki n'apporte pas la preuve de la validité de ma théorie sur les migrations raciales. Mais notre traversée prouve que les îles polynésiennes étaient accessibles aux radeaux préhistoriques du Pérou et que l'homme primitif avait pu entreprendre de longs voyages et traverser l'océan. Le facteur décisif n'est pas la distance, mais le vent et les courants qui soufflent et circulent dans le même sens chaque jour et pendant toute l'année.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, Fabrice Drouel y a consacré récemment un épisode entier d'Affaires Sensibles qui est réécoutable en podcast. Evelyne Heyer, déjà ce Thor Heyerdahl, il n'a pas de lien de parenté avec votre famille, malgré la ressemblance. Non, c'est pas le patronyme, il n'y a rien de tout ça. Est-ce que la génétique peut permettre de trancher plus définitivement cette question, c'est-à-dire de savoir si effectivement il y a eu des échanges de populations entre le Pérou et la Polynésie?
Oui. Alors pour l'instant, en génétique, il y a des populations du Pérou, d'Amazonie, où on a retrouvé des petits bouts d'ADN dans leur génome qui seraient plutôt apparentés aux populations polynésiennes.
Donc là, ce serait dans l'autre sens. C'est la Polynésie qui rend visite au Pérou.
Tout à fait. Après tout, si on le fait dans un sens, pourquoi pas dans l'autre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore d'études pour dater ça. Il y a d'autres études qui contredisent cette première étude. Donc je dirais que c'est quelque chose à suivre, mais que je pense que d'ici un an ou deux, on aura plus d'informations.
Ça c'est passionnant, hein, de savoir comment ces îles qui ont l'air pour nous au bout du monde, au milieu de l'océan Pacifique, ont pu être colonisées.
Ah non, mais c'est dingue. Quand vous regardez une carte du monde, et moi j'adore regarder des cartes du monde, et que vous voyez les différents bouts de les îles polynésiennes, où elles sont, on se demande comment les humains ont fait pour les trouver quand ils naviguaient. Ouais. Moi je trouve ça extraordinaire. C'est une partie de l'humanité qui me fascine.
J'ai noté, vous avez dit, comment les humains ont fait pour les trouver et pas les hommes ont fait pour les trouver. Et dans votre livre, vous consacrez un petit chapitre, mais qui est très intéressant, sur le fait qu'on imagine que c'est les hommes qui voyageaient, or la génétique vient contredire cette idée reçue.
C'est vrai. Quand on regarde l'ADN qui est transmis par les mères, qu'on appelle l'ADN mitochondrial, et qu'on le compare à l'ADN qui est uniquement transmis de père en fils, le chromosome Y, on voit dans cet ADN que d'une manière générale, dans notre espèce, c'est surtout les femmes qui ont bougé plus que les hommes.
Est-ce que ça s'explique ?
Ça s'explique en partie par les mariages, c'est-à-dire que souvent, quand un homme et une femme viennent d'endroits différents et qu'ils se marient, la femme va bouger dans le village de son époux, et c'est quand même une grande partie des sociétés humaines qui sont comme ça, et peut-être qu'il était déjà dans le passé.
Donc ce serait finalement les sociétés patriarcales qui auraient conduit les femmes à plus voyager.
Ah, pas patriarcale, patrilocale.
Patrilocale.
Attention,
ah, oui.
Pas parce que
ça veut dire que c'est l'homme qui reste sur place, mais c'est pas lui qui commande, c'est ça que vous voulez dire?
Local, oui, c'est ça. Bah, non, mais il peut commander de temps en temps, mais c'est pas systématique.
D'accord. Étudier le génome des humains d'aujourd'hui ne permet pas uniquement de reconstituer les grandes migrations d'hier. Certaines habitudes culturelles et certaines pratiques nouvelles ont laissé des traces dans les génomes au fil des générations. Notre ADN peut raconter beaucoup de choses pour peu qu'on sache le lire. C'est ce que nous allons voir avec vous, Evelyne Heyer, dans la suite de ce temps d'un bivouac.
C'était Léonie Pernet qui chantait « L'horizon ose » sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Des chants pygmées qui résonnent dans le temps d'un bivouac, voilà qui doit rappeler quelques souvenirs à notre invitée, professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, où elle mène des recherches sur l'évolution génétique et la diversité de notre espèce. Evelyne Heyer, je vous voyais d'ailleurs en écoutant ces chants fermer les yeux et vous balancer un peu. Un mot sur les chants pygmées. Vous dites dans votre ouvrage « La vie secrète des gènes » chez Flammarion que dans les années 1960-1970, des ethnologues spécialistes de la musique ont découvert que les pygmées usaient des techniques musicales très élaborées.
Oui, des techniques musicales qu'on croyait réservées à la musique occidentale après Bach, ouais. et qui ont été très surpris de découvrir donc justement des contrepoints, des chants polyphoniques, comme si finalement ces groupes humains avaient mis en avant, eux, dans l'évolution, ce qui leur a plu, c'est la musique. Si vous voulez, nous, on a fait des machines, mais eux, c'est la musique.
Ouais. Et ils y étaient avant nous, finalement, sur ces compositions complexes à plusieurs lignes musicales.
Tout à fait, bien avant nous.
Ouais. Les pygmées sont un peuple qui vous est très cher, Evelyne Heyer. Vous y avez séjourné à plusieurs reprises.
Oui, et puis j'ai de la chance, dans mon labo, les gens ont travaillé sur les populations pygmées depuis 20-30 ans. Les meilleurs ethnologues des populations pygmées sont dans mon labo au Musée de l'Homme. Donc j'ai eu la chance, non seulement moi sur place d'y aller, mais aussi de parler avec tous ces gens. Et c'est vraiment des groupes extraordinaires. Et ils étaient intéressants pour nous, pour la génétique, parce qu'ils ont gardé en partie un mode de vie que les populations avaient dans le passé, c'est-à-dire qu'ils pratiquent un petit peu d'agriculture, mais l'essentiel de leur mode de vie est basé sur la chasse et la cueillette. Et donc, avec les études génétiques, c'était un peu comme de voir comment les groupes étaient constitués dans ce type de population pour imaginer un peu notre passé. Ce qui ne veut surtout pas dire que les pygmées sont des populations du passé, pas du tout. Mais pour une des caractéristiques, ils ont gardé des choses que nous, on n'a pas gardées, vu qu'on a fait la transition vers l'agriculture.
Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a d'autres chasseurs-cueilleurs à la surface du globe aujourd'hui, mais là, on a une population de plusieurs centaines de milliers d'individus.
C'est certainement un des plus grands groupes de population de chasseurs-cueilleurs à travers le monde. Et puis chacun, ils ont des noms différents. Hein, c'est nous qui les appelons pygmées.
Oui,
hein. Eux, c'est les Baka, les Aka, voilà, c'est pas
Oui. Et ils ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Quoi.
Non, de manière surprenante, ils ne se connaissent pas forcément tous entre eux.
Alors vous disiez, ils ne pratiquent pas l'élevage ou l'agriculture, ou alors de façon très anecdotique. Qu'est-ce que ça a changé pour les sapiens qui se sont mis à pratiquer l'élevage et l'agriculture dans leur ADN? Ça, c'est quelque chose de très surprenant qu'on apprend en vous lisant. Ce genre de pratique a eu une conséquence, pas sur un individu, mais à l'échelle des populations, les génomes ont évolué.
Ah ouais, c'est génial comme exemple.
Oui, c'est passionnant.
Ouais, c'est la digestion du lait. Nous, on est des mammifères, donc comme tous les mammifères, on digère le lait quand on est enfant, mais pas quand on est adulte. Mmh. La vache, elle boit pas de lait, quoi, en gros. Et il se trouve qu'il y a des populations humaines où les adultes digèrent le lait. Et ce sont des populations qui se sont mises à l'élevage il y a plusieurs milliers d'années, et on connaît maintenant le mécanisme génétique. C'est une mutation qui existait, qui servait à rien, et qui permettait de digérer le lait en étant adulte. Et quand les gens se sont mis à utiliser du lait frais dans leur alimentation, ceux qui portaient la mutation ont été avantagés, c'est-à-dire qu'ils se reproduisaient mieux ou qu'ils survivaient mieux. Donc, ils ont eu plus de descendants. Donc, la mutation a augmenté en fréquence au fil du temps. Et par exemple, en Europe du Nord, 90% des adultes digèrent le lait. En Afrique, c'est d'autres mutations et vous avez des populations où 90% des gens digèrent le lait. Quoi.
Ouais. Ce qui est du coup passionnant, c'est que en regardant à partir de quand dans le génome cette mutation se répand dans la population, ça marque très clairement le moment où on se met à boire du lait, donc on se met à faire de l'élevage.
Oui, ça colle tout à fait avec vraiment le moment où on a un changement de pratique et où le lait devient important termes d'alimentation.
Mais là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se dit, vraiment, c'est un livre d'histoire. Notre ADN, si on sait le lire, on peut dire, c'est à tel moment que l'élevage commence.
Oui, mais là, c'est parce qu'on a de la chance, parce que c'est une seule mutation. Donc, c'est très facile. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y en a d'autres, hein, des comme ça, de mutations. Par exemple, il y a les Inuits qui digèrent le gras très riche en oméga 3 des mammifères marins, des phoques et tout ça qui pêchent. Si vous, vous mangez comme les Inuits au bout de plusieurs mois, vous allez être un peu malade, alors qu'eux, ils ont pareil une mutation qui a été sélectionnée et qui leur permet d'être adaptés à leur alimentation.
Si on va du côté des Philippines, chez les Bajo, là aussi, il y a des adaptations qui se sont répandues dans la population en fonction des pratiques.
Oui, qui sont très drôles. Là, c'est une adaptation qui permet de faire l'apnée plus longtemps. Alors, vous me direz, l'apnée, bon, on pense que, je dirais que les bons pêcheurs d'apnée devaient avoir un meilleur statut social, parce que peut-être ils ramenaient plus de choses, donc ils se sont mieux reproduits, et donc la mutation, petit à petit, s'est diffusée au fil du temps.
C'est une mutation qui permet de faire des plongées de 13 minutes, hein, quand même.
Incroyable.
C'est les recordman du monde entier en matière d'apnée,
on
c'est les
Bajo. On commence à se rapprocher des X-Men.
Oui, c'est ça. Oui, là, ça devient vraiment des mutations assez phénoménales. Et en voyageant, Homo sapiens a fait évoluer, c'est très physique. Est-ce qu'on sait, par exemple, comment la couleur de peau a changé au fur et à mesure des migrations?
Alors, un des beaux résultats de ce qu'on appelle les techniques d'ADN ancien, c'est-à-dire quand on peut analyser des squelettes de gens disparus il y a plusieurs dizaines ou vingtaines de milliers d'années, c'est d'avoir montré que en Europe de l'Ouest, les premiers Européens, ils étaient noirs de couleur de peau, et qu'en fait la couleur de peau devient blanche, s'éclaircit en Europe seulement il y a quelques milliers d'années, mais que je dirais que les Européens de souche sont noirs, quoi.
Ouais. Et comment? Qu'est-ce qui a fait que finalement?
Alors ça s'est éclairci parce que dans les environnements où il y a moins de soleil, c'est intéressant d'avoir une peau plus claire pour aider à la synthèse de la vitamine D. Or, il se trouve que quand on a fait une transition vers l'agriculture, on a moins de vitamine D dans l'alimentation et ça devient entre guillemets intéressant d'un point de vue physiologique d'être plus clair de couleur de peau. Donc les populations européennes s'éclaircissent parce qu'elles changent d'alimentation et parce qu'il y a les agriculteurs qui arrivent du Moyen-Orient qui eux sont déjà plus clairs de peau.
Alors, en étudiant le génome d'une personne ayant vécu il y a plusieurs millénaires sur Terre, on peut avoir, grâce à ces expériences génétiques, ces études génétiques, une idée de ce à quoi cette personne ressemblait physiquement. Un exemple parmi d'autres.
Les scientifiques l'ont baptisée Lola. La peau sombre, les cheveux noirs et les yeux clairs. Voilà le visage reconstitué presque tangible de notre ancêtre. Une jeune fille qui vécut il y a 5700 ans. C'est au sud du Danemark que des chercheurs ont retrouvé sa trace lors de fouilles archéologiques. Non pas grâce à ses ossements, mais à cet objet inattendu, un chewing-gum qu'elle aurait mastiqué.
C'est unique. Cette petite chose nous a fourni plus d'informations que des années de fouilles. Quand ils avaient des problèmes de gencives, ils mâchaient cette pâte pour se soigner.
En voyant les premiers résultats, on n'en croyait pas nos yeux. Nous étions vraiment étonnés de voir que ce chewing-gum contenait tant d'ADN et qu'il était si bien préservé.
Extrait du journal télévisé de France 2, daté de 2019. C'est complètement fou, hein, cette histoire de chewing-gum fait d'écorce de bouleau vieux de 5000 ans au sud du Danemark. Un exemple sur lequel vous revenez dans votre ouvrage, Evelyne.
Ah oui, parce que je l'ai trouvé tellement bluffant. Et là, vous avez vu, dernièrement, il y a une équipe qui est arrivée à récupérer de l'ADN sur un bijou paléolithique.
Ouais.
Non, mais moi, je suis pas une personne de labo, donc je suis complètement bluffée par les prouesses de mes collègues.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, en ayant juste l'ADN d'un individu qui vieux de plusieurs millénaires, on peut avoir une idée assez précise de son aspect physique.
De certaines choses dans son aspect physique. Il y a, par exemple, dans la couleur de peau, il y a une dizaine de mutations, c'est-à-dire de variations impliquées, mais il y en a deux ou trois qui sont plus importantes que les autres. Et si, par chance, on arrive à récupérer l'ADN qui correspond à ces bouts-là de l'ADN, on arrive à savoir si quelqu'un était plutôt de couleur de peau claire ou foncée. Pareil pour la couleur des yeux, bleu ou pas bleu. Mais voilà. Ouais. On n'a pas encore d'autres outils, par exemple, pour retracer, par exemple, la forme du visage. Ça marche pas. Ouais. C'est plein de morceaux.
Mais vous
L'ADN,
avez dit
c'est
pas
compliqué.
Encore. Ça veut dire qu'on pourrait y arriver un jour, ça? Ce serait possible ?
Je pense, oui, parce que moi, je vois, par exemple, les formes du visage, si vous regardez dans des familles, quand même, on voit qu'il y a un petit truc de génétique. Donc, il y a certainement une partie qui est codée, en tous les cas, certains traits du visage pour lesquels on pourrait avoir des données génétiques.
Alors, avec la génétique, on l'a compris, on peut remonter et faire une sorte de grand arbre généalogique. Y a-t-il un Homo sapiens dont nous descendons tous sur Terre aujourd'hui ?
Alors, on a tous un ancêtre commun. C'est fascinant. En fait, il suffit de faire les calculs. Donc, il faudrait un tableau, des craies et des petites équations. Je
ça
pense
tombe
pas
mal,
que c'est
on est à la radio.
de l'émission. Mais enfin, vous pouvez calculer et on peut montrer que le premier ancêtre commun à tous les humains date de seulement 4 ou 5 000 ans selon les études qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a tous, on est tous cousins, avec tous un ancêtre assez proche.
Si je résume, Evelyne Heyer, on est tous cousins et nous sommes tous descendants de migrants.
Tout à fait.
C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir de ces études génétiques. En d'autres époques, la génétique a conduit à l'eugénisme. Vous, c'est tout autre chose, c'est tous cousins et tous descendants de migrants. Merci Evelyne Heyer. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La vie secrète des gènes chez Flammarion. Ça se lit vraiment très bien. Et puis plus détaillé, mais tout aussi passionnant, je signale aussi votre précédent ouvrage, L'Odyssée des gènes, également chez Flammarion, qui lui s'est déjà vendu à...
Quasiment 50 000, ouais.
50 000 exemplaires. Vous n'avez pas besoin de nous pour qu'on vous lise, Evelyne Heyer. Allez, restez avec nous, Evelyne Heyer. Dans un instant, nous allons retrouver notre naturaliste de terrain, Marc Giraud, qui va nous emmener écouter les poissons.
Something you said the other night made me believe.
I care for you.
c'était Alani qui chantait Something You Said dans le temps d'un bivouac. Et merci à l'ami Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Souvent, je me dis, mais comment fait la nature pour créer des choses aussi parfaites ?
Bonjour Marc Giraud.
Bonjour.
Notre naturaliste de terrain préféré que l'on retrouve tous les lundis avec bonheur en fin d'émission pour aller observer la nature. Et aujourd'hui, vous nous emmenez écouter les poissons. Vous voulez dire, Marc, que les carpes ne sont pas muettes?
Non, on va se faire un petit concert, voilà les tubes de l'été pour la fin. Hein, on va plonger.
On commence avec quel poisson alors?
Un poisson qui a été très très nombreux et qui faisait tellement de bruit que ça perturbait les sonars des marins. Donc pendant la guerre d'ailleurs, il y a des militaires qui ont profité du son des poissons pour manœuvrer en douce.
Ah oui.
Donc on va écouter ça.
Là, ce sont les percussions ou c'est l'ensemble du bruit qui...
Alors ça, c'est une morue, en fait, mais multipliée par des milliers, ça peut faire beaucoup, beaucoup de décibels. C'est le chant d'amour des morues. Bon, c'est pas spécialement milieu d'eux, mais c'est comme ça qu'elles séduisent.
Mais là, par exemple, l'espèce de bruit blanc, c'est pas ça le chant des morues, c'est le...
Oui, il y a un bruit de fond, c'est ça.
Et alors, comment font les morues pour produire ce bruit?
Alors, elles n'ont ni oreille pour entendre, ni corde vocale. En fait, la plupart des poissons chantent avec la vessie natatoire.
Ah oui?
La vessie natatoire, c'est une poche de gaz qui sert de ballast quoi, pour maintenir le niveau d'eau. Et ils le font vibrer, le poisson trompette fait jouer à la trompette, le grondin gronde avec, enfin, il y a toute une série de sons possibles.
Mais alors, puisque vous nous dites qu'elles n'ont pas d'oreille, comment, une fois qu'une morue a émis son chant, comment l'autre morue entend le chant?
Ben, c'est un peu comme les serpents, le corps vibre.
Okay.
Et elles entendent les vibrations, elles perçoivent les vibrations.
Un autre exemple alors de poisson?
Un serpentiforme, celui-là, qui naît dans la mer et qui vit dans nos rivières.
Ouais, on a une idée. C'est plus rythmé. Bon, j'imagine que c'est une anguille, hein, ce serpentiforme.
Oui,
c'est le premier auquel on pense.
C'est le chant d'anguille, effectivement, qui libère des bulles de gaz de sa vessie natatoire. Elle est fait transiter par l'œsophage et elle les sort par la bouche. L'anguille rote pour communiquer.
Ah,
et ça, c'est son cri pré-migratoire. C'est quand elle va retourner à la mer.
Donc là, c'est une anguille qui dit à tout le monde « Allez les gars, on va bientôt y aller »,
c'est
ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est une sorte de cri de ralliement ?
Peut-être, mais en tout cas, elle va se transformer pour s'adapter à l'eau salée et aux abysses.
D'accord. Ouais. Un autre poisson qui mérite d'être écouté.
Alors celui-là, il rote pas, écoutez-le.
Ah, ça piaille !
Oui, ça fait une sorte de friture, ça c'est normal pour un poisson. Ce sont des harengs.
Ah oui ?
Ouais. Et eux, ils avalent des bulles d'air et ils les éjectent par l'anus. Autrement dit, les harengs communiquent en pétant.
C'est
différent d'anguilles, voilà.
Ouais. Et qu'est-ce qu'ils se racontent?
Alors, s'ils font des bulles dans leur bain, comme ça, c'est probablement un cri de ralliement pour rester groupé. Ça veut dire « je suis là et toi, moi je suis là », voilà, la cohésion du groupe.
On en écoute un autre, Marc?
Peut-être en Méditerranée ou dans les mers chaudes, celui-là.
C'est un poisson, là. On n'est pas en train de démarrer un moteur ou de taper sur...
Ah, c'est particulier, hein.
C'est quoi comme poisson?
Et ce poisson est très particulier, il s'appelle l'aurin, A-U-R-I-N.
Alors là, il faut nous le décrire parce qu'on le connaît pas forcément.
Alors, ce qu'on voit, c'est surtout son habitat, parce qu'il vit dans les concombres de mer, dans les holothuries, qui sont des espèces de gros boudins qu'on voit sur le sable, enfin sur le substrat.
Ouais.
Et lui, il a une forme d'aiguille, il est très très fin, et il rentre à reculons dans l'anus de l'holothurie.
C'est-à-dire qu'il passe l'essentiel de sa vie à l'intérieur du concombres de mer.
Il ne dépasse que la tête, un peu comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre, et la nuit, il va chasser. Et au petit matin, il rentre.
Ah.
Donc, l'holothurie, ça la dérange. Des fois, elle éjecte même ses viscères pour se débarrasser de son parasite.
D'accord.
Et il a un surnom, évidemment, l'aurin. Il s'appelle le poisson thermomètre.
Ah oui, évidemment.
C'est logique.
Et oui, mais ça veut dire qu'il ne passe pas sa vie dedans. C'est sa maison, mais parfois il part chasser. Donc.
C'est sa maison, et comme il la défend, il pousse le cri qu'on vient d'entendre à coup de vessie. Si jamais vous entendez ça, c'est que vous êtes trop près d'une holothurie et que le haut-rein ne veut pas que vous y alliez aussi.
D'accord, mais on ne craint pas grand-chose de cet haut-rein.
On ne craint pas grand-chose. Non, c'est très fin.
Bon. Un autre poisson qui fait du bruit, ou qui chante, ou qui fait du son?
Alors celui-là, c'est dans le golfe de Gascogne. C'est un poisson beaucoup plus gros.
On dirait vraiment un bruit de moteur, c'est
ouais,
quoi?
Ouais, c'est étrange.
Quel poisson?
C'est le maigre.
Ah oui.
C'est le chant d'amour du maigre. C'est souvent des chants d'amour, hein, des mâles. Ça s'entend depuis la surface. Et les marins l'appelaient le roi des sardines parce qu'ils croyaient qu'il donnait des ordres aux sardines. Donc vraiment, on peut les entendre, ces poissons.
Ah, ouais.
Comme les grondins, comme tous ces poissons-là.
Ouais.
Le corbe qui croasse, enfin, on peut vraiment entendre beaucoup de poissons sous l'eau.
Un dernier pour la route.
Allez, c'est Nemo.
Ah oui, le poisson clown alors. Le poisson clown aussi fait du bruit ou en tout cas...
Il défend son territoire, sa petite anémone.
Ah, c'est presque mignon ce qu'il
fait.
Oui,
c'est un petit clown. Mais c'est mignon d'ailleurs, c'est un petit poisson en pyjama.
Et ça, c'est pour terrifier les importuns ?
C'est aussi pour défendre son territoire. Alors ça vit en harem, mais c'est un poisson transsexuel. Donc les femelles se transforment en mâles. C'est toute une vie de groupe qui est tout à fait particulière.
Ah oui, donc il communique aussi peut-être avec les autres membres du groupe.
Il y a aussi une sorte de vie sociale, oui.
Merci Marc Giraud. Je signale l'un de vos nombreux ouvrages, La nature en bord de mer, chez Delachaux et Niesley, parce que là on y était évidemment. Au bord et dans la mer, et puis La nature en bord de chemin aux éditions Delachaux et Niesley également. Un grand merci à vous Marc, et
merci.
À la semaine prochaine. Le temps d'un bivouac replie sa tente, à demain pour de nouvelles aventures.